Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Arnaud Périquet. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Périquet, vous êtes accompagnateur en montagne ou autre dénomination ?
Non, accompagnateur en montagne.
Vous proposez au sein de Vercors Escapades des randonnées agrémentées de contes sur la botanique et qui mêlent la botanique aussi. Alors, ces contes et botaniques, comment vous les avez amenés sur ce parcours que vous proposez ?
Eh ben moi c'est en fait ça fait 10 ans que je fais ce métier là et c'est vrai que c'est une des grandes facettes de notre métier, de parler de ce qu'on voit autour de nous quand on balade, les arbres, les fleurs, les montagnes, et donc les anecdotes, il y en a plein à raconter quand on est dehors. Et moi c'est à l'occasion d'un stage avec un formateur sur de l'animation nature. En fait, on a fait une demi-journée sur le conte. Je m'imaginais pas du tout compter au départ. Et pour moi, c'était un univers. Non, je me voyais pas là-dedans. Et en fait, ça a été le coup de foudre. Ouais. Donc, on a travaillé sur les contes et ça m'a beaucoup plu. Et ça a été le début.
Et donc, en premier lieu, vous êtes accompagnateur en montagne, moyenne montagne ?
Ouais. Alors, en fait, moyenne montagne, c'était l'ancienne appellation de ce diplôme. Finalement, on l'a supprimé, moyenne montagne, et c'est devenu accompagnateur en montagne, parce qu'on n'a pas de limite d'altitude, en fait. Nous, la seule limite, c'est qu'on ne doit pas faire d'escalade, pas de prendre de piolet ou de corde. Donc voilà, nous, on est les professionnels de la randonnée, en fait, la randonnée à pied.
C'est une vocation donc qui vous a pris il y a une dizaine d'années, comme vous le dites. C'est par amour de la montagne que vous y êtes penché.
Oui, complètement. L'amour de la montagne et aussi le besoin et l'envie d'être dehors, quoi. Ouais, la satisfaction d'être en plein air.
Ce plein air, vous inspire aussi. Il y a le vent, par exemple. Est-ce que le vent chante aussi dans les roches ? Et est-ce qu'elles inspirent aussi des contes, peut-être ?
Oui, bien sûr. Ben, après, j'ai pas forcément de contes sur le vent, mais en tout cas... on en parle forcément du vent. Quel que soit l'endroit, on va parler du Mistral, le vent du Nord. Et dans des contes, oui, il peut intervenir, en fait, maintenant que vous le dites. Ouais.
Et aussi, par rapport au cadre montagneux, il y a cette montagne, et avec le mystère qui se trouve au-delà. Est-ce que ça aussi, ça amène dans l'imaginaire cette inspiration pour des contes ?
Oui, complètement. Il y a tout un registre de contes sur la montagne. En fait, si on remonte un peu plus loin en arrière, quelques centaines d'années en arrière, la montagne, c'était un petit peu, surtout la haute montagne, c'était un peu l'enfer, c'était le diable. Donc on a beaucoup de légendes et de contes là-dessus, hein, sur la grotte en haut de la montagne avec le diable. On allait le voir pour faire des pactes avec lui ou autre. Et oui, il y a plein d'histoires là-dessus. Ouais.
Des contes, est-ce qu'on peut aussi comparer avec l'Odyssée d'Homère, avec le cadre est différent, c'est celui de la mer, mais la montagne aussi, comme vous le dites, avec ses légendes ou des mythes, nourrissent un peu cette culture de la montagne.
Oui, complètement. Au niveau de la mythologie, après il y a tout un volet des contes qui sont sur la mythologie. Moi, c'est pas un univers que j'explore, mais oui, il existe, ouais, complètement.
Alors, ces contes qui sont proposés aux randonneurs qui vous accompagnent, ce sont des contes que vous avez prélevés in situ, par exemple, ou alors ce sont des textes que vous retrouvez sur d'autres archives ou d'autres endroits de la région, enfin d'autres sites géographiques plutôt.
Bah oui, les contes, ils peuvent venir de plein d'endroits différents. Alors, on peut les glaner, on peut les avoir entendus. Alors ça, c'est l'essence du conte, hein. Il faut savoir que le conte, c'est la tradition orale. Et du coup, normalement, on ne doit pas s'attacher à des textes. C'est quelque chose qui est transmis de bouche à oreille. Et du coup, qui évolue, qui se transforme. Et donc, on a plein d'histoires qui sont... on peut avoir des histoires du Massif central, des histoires de la Corse, mais qu'on va retrouver un petit peu de partout, des contes de Provence. On va retrouver le même conte, mais un petit peu différent, parce que forcément, en ayant été reporté, il y a eu des petites transformations. Mais on a une racine commune à tout ça. Ouais.
Peut-être que durant l'émission, vous auriez une petite envie de nous parler d'un conte ou de conter quelque chose ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais.
Et par exemple, là actuellement, le circuit se trouve principalement sur le Vercors ou autour du Vercors, ou vous avez d'autres étendues à explorer ?
J'ai pas de circuit attitré, parce que finalement, le conte, ça peut être de partout. Moi, je trouve que l'extérieur, c'est un endroit magnifique pour écouter des histoires. Donc quand on marche, on trouve un bel endroit, une belle vue, ou alors sous un bel arbre à l'ombre, on s'installe. Et dans l'herbe, et on écoute des histoires. Pour moi, c'est le plus beau endroit pour écouter et pour raconter.
Comment vous associez la randonnée, la botanique et les contes ? C'est une idée qui vous est arrivée il y a combien de temps, au juste ?
Je dirais que ça fait quasiment une dizaine d'années dès le début, parce que je m'y suis mis peut-être 2 ans après avoir été diplômé à compter. Et finalement, ça se fait très naturellement, parce que dans notre métier, comme on parle des arbres, comme on parle des fleurs, au début, c'est pas du conte. Et puis un jour, on apprend une histoire sur cette fleur là qu'on voit, et donc quand on va passer à côté, hop, moi ce que j'aime bien, c'est même la surprise. Les gens ne s'attendent pas à avoir un conte. On voit la fleur, on s'arrête, hop, je vous invite, installez-vous confortablement. Et puis pouf, on démarre une histoire, et là c'est la petite surprise finalement. On est dans une histoire, donc les gens écoutent. Et puis après, on peut partir ensuite sur quelque chose, une fois qu'on a terminé l'histoire, l'imaginaire, sur quelque chose de plus concret, de plus scientifique ou l'ethnobotanique, la relation, ce qu'on a fait de cette plante, nous les hommes, comment est-ce qu'on la consomme, est-ce qu'on se soigne avec, et tout ce qui est plus concret. Donc c'est un peu un voyage de l'imaginaire ensuite au plus concret, ouais.
Par rapport à ce parcours en randonnée, vous vous arrêtez donc autour d'une fleur et vous la décrivez dans son aspect botanique. Et puis ensuite, vous vous dérivez vers un conte ou alors il y a un cadre qui commence dès le départ de cette randonnée jusqu'à la fin de celle-ci où il y a l'univers du conte qui prévaut.
Ça dépend. Il y a certaines randonnées où c'est prévu, c'est une randonnée contée. Donc là, les gens s'attendent à avoir des histoires, des contes. Donc on marche un petit peu, hop, on s'arrête à un endroit. Là, on a un arbre en visu, une plante, hop, on peut faire 2-3 petites histoires. Et puis après, hop, on se remet en chemin et puis on va à un autre endroit. Après, il peut y avoir aussi des histoires simplement sur le lieu ou sur les montagnes qu'il y a autour. Ou plus général, donc dans ce cas-là, ça peut être n'importe où, il suffit qu'il y ait un bel endroit pour s'installer, de l'ombre ou une jolie vue, et on y va, quoi.
En général, il y a combien de personnes qui partent avec vous en randonnée ?
Tout est possible. J'ai déjà eu 3 personnes, comme 20 personnes, 25 personnes. Tout est possible. Après, en général, la moyenne des groupes, c'est une dizaine de personnes, on va dire.
Ces personnes sont aussi d'abord amoureuses de la randonnée ou alors aussi celles des contes ?
Je dirais que les deux. Ouais. Les gens aiment bien être dehors. S'ils se sont inscrits à une randonnée, ils aiment bien marcher. Et les contes, des fois, les gens sont un peu sceptiques. Et puis, quand on démarre une histoire, ils se laissent prendre là-dedans. Et ça, pour moi, c'est un côté magique, les contes. C'est que les adultes comme les enfants, en général, tout le monde se fait embarquer. Et on passe un bon moment. Et puis les adultes, des fois, ça fait longtemps qu'on ne leur a pas raconté d'histoire. Et à la fin, ils me disent « c'est quand même sympa d'entendre des histoires, qu'on nous raconte des histoires. » Ils avaient oublié, finalement, ce côté-là qu'on a eu enfant.
Les histoires, les contes que vous énumérez sont d'origine vécue ou alors c'est aussi une part d'imaginaire qui nourrit ces histoires ?
Je dirais que ça mélange du vécu et de l'imaginaire. Mais il y a quand même beaucoup d'imaginaire dans le conte. Ouais.
Est-ce que les retours aussi sont ceux du public qui proposent eux-mêmes peut-être de conter une histoire lors de ces randonnées ? Ou alors c'est un public qui vous écoute uniquement ?
Ça peut arriver que quelqu'un raconte une histoire. En général, c'est pas évident de se mettre en avant et de raconter une histoire devant le groupe. Ce qui est marrant, finalement, c'est que là où ça m'est le plus arrivé, c'est avec des enfants. En fait, les enfants, ils sont dans cet univers. On leur raconte des histoires, les parents leur racontent des histoires. Et du coup, quand on fait des contes, ils ont envie de raconter l'histoire qui leur plaît en ce moment. Ça arrive même qu'ils me coupent entre deux histoires. Moi j'en ai une à raconter, vas-y, je peux. Moi j'aime bien, je les fais intervenir.
Des randonnées, vous en organisez souvent en temps normal, hein, on terra la période Covid actuellement, mais de quel rythme vous proposez des randonnées tout au long de l'année par exemple ?
Nous, on a quand même un rythme qui est bien saisonnier. Hein. On fonctionne beaucoup avec le tourisme. Donc, je dirais que la période la plus propice et où on en propose le plus, finalement, c'est à partir de mai-juin jusqu'à septembre-octobre. Donc ça, c'est les randos estivales. Et puis après, il y a la période hivernale qui est la saison démarre janvier-février. Ouais.
La forêt, quelle place a-t-elle dans ces randonnées au niveau de la montagne ? Elle est très présente ?
La forêt, c'est forcément un passage. Hein, parce que quand on va en montagne, on démarre dans la plaine. Et puis souvent, on a une période de transition où on grimpe dans la forêt. Hein. Ici, ça peut être les chênes, la hêtraie sapinière. Et c'est un milieu qui se prête bien au conte. La hêtraie sapinière qu'on a ici dans le Vercors, là, c'est un milieu un peu ombragé avec de la mousse, les sapins et les hêtres. On imagine tout à fait les petits gnomes ou des petits personnages vivre là-dedans.
Parce qu'on se réfère au conte, on peut y trouver énormément de place dans la forêt, dans ces histoires en général. Hein. Elle est souvent mise en avant comme décor. La montagne, peut-être un peu moins. Est-ce qu'il existe pourtant une grande tradition de contes liés à la montagne ?
Oui. Il y a beaucoup de contes sur la montagne. Ouais. Et puis c'est un milieu où les contes et les histoires étaient très présentes et peut-être plus présentes que dans les villes. Parce que en fait, la tradition orale, le conte, finalement, c'était quoi ? C'était avant, les soirées. En hiver, les soirées longues dans les maisons, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la télé. Et pas la radio. Et du coup, comment on s'occupait ? On se racontait des histoires. Ça peut être des histoires tout à fait réalistes sur la journée qu'on a passée ou quelque chose, une anecdote qui s'est passée l'année dernière. Mais ça peut être aussi de l'imaginaire, une histoire qui s'est transmise de bouche à oreille et qui s'est transformée au fur et à mesure. Et dans les montagnes, on avait un peu de retard sur les technologies, tout ça. Et dans les maisons, les hivers, c'était long, beaucoup de neige. Là-haut, sur le plateau du Vercors, on avait beaucoup plus de temps pour cette tradition orale.
En parlant du Vercors, est-ce qu'il existe un conte qui pourrait être conté, par exemple, maintenant ?
Moi, j'ai un conte que j'aimerais bien vous raconter. C'est pas forcément sur le Vercors, mais c'est une histoire d'arbre. C'est un arbre qu'on peut tout à fait trouver sur le Vercors, oui. Alors cette histoire, il va falloir voyager dans le temps. On va remonter très très loin en arrière. C'est au moment de la création du monde. Et au moment de la création du monde, le grand créateur, il avait créé les arbres avec des branches toutes nues tendues vers le ciel. Il n'y avait pas une feuille. Puis au premier printemps, tout le monde a trouvé ça triste, ces arbres avec des branches toutes nues, sans feuilles. Alors le grand créateur, il a eu une idée. Il a mis une grande malle au milieu d'une prairie, une malle avec plein d'habits à l'intérieur. Puis les arbres, ils sont venus se servir les uns après les autres. Le premier qui est arrivé, c'est le chêne. Le chêne, sérieux et sage, il a mis longtemps à choisir un beau costume en velours festonné. Et puis après, il y a le peuplier qui est arrivé. Le peuplier, il est arrivé, hop, tout joyeux, il a choisi un petit feuillage bruissant dans le vent. Et puis ensuite, il y a le saule qui est arrivé. Alors le saule, avec son feuillage argenté, là, il a choisi ce beau feuillage argenté. Il s'est installé près des cours d'eau pour pouvoir regarder son reflet dans l'eau. Et puis au fur et à mesure, tous les arbres, ils sont venus se servir. Mais il y en avait un qui n'était pas venu. C'était le frêne. Alors le frêne n'était pas venu. Et puis bon, tout d'un coup, les arbres, ils sont venus le voir et ils sont moqués de lui. Ils lui ont dit « il est tout nu, il est tout nu ». Alors le frêne, il a été gêné, il a été dans la malle. Et quand il a regardé dans la malle, il y avait un costume tout déchiré. Il n'y avait pas le choix, il a mis son costume tout déchiré. Tant bien que mal, et puis bon, il a passé l'été comme ça. Mais bon, les arbres, ils se moquaient un peu de lui, il n'assumait pas son costume. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait à l'automne? À l'automne, ça a été le premier, il a jeté toutes ses feuilles par terre. Pouf, il s'est déshabillé. Les autres arbres, pendant ce temps, ils ont commencé à prendre des belles couleurs d'automne, jaune, orange. Et puis petit à petit, l'automne s'est avancé, l'hiver est arrivé, et les arbres, ils ont commencé à tous s'endormir les uns après les autres. Et le frêne, lui, il a croisé les bras, il a dit « Puisque c'est comme ça, moi, je ne vais pas m'endormir cet hiver, comme ça je serai le premier à me servir dans la malle au printemps. » Et puis là, Noël arrive, tous les arbres sont endormis, et le frêne, lui, il est déterminé à ne pas s'endormir. Et puis on arrive en janvier, il fait très froid, et le frêne, ce qui devait arriver, arriva, il s'est endormi comme les autres arbres. Et ce qui l'a réveillé au printemps, c'est tous les arbres qui l'entouraient et qui disaient « Il est tout nu, il est tout nu ». Alors, il a été embêté, il a été dans la malle. Et encore une fois, il avait son costume tout déchiré. Et depuis cette époque, le frêne, à chaque fois, au printemps, c'est le dernier à mettre ses feuilles. Et à l'automne, c'est le premier à les perdre. Mais il paraît que depuis cette époque, il a appris à apprécier son feuillage, tout découpé.
Ces contes, souvent, sont aussi des références et puis un résultat d'observation de la nature.
Et oui, complètement. Pour revenir à ce conte que je viens de vous raconter, en fait, il y a plein de choses qui sont de la réalité. En fait, il y a de l'imaginaire et de la réalité. Le frêne, c'est vraiment un arbre qui met longtemps à mettre ses feuilles et qui les perd assez rapidement à l'automne. Donc, d'où cette histoire. Pareil, le peuplier, quand j'ai dit qu'il avait un feuillage léger, on l'appelle le peuplier tremble parce qu'il a des pétioles. Le pétiole, c'est ce qui rattache la feuille à la branche, des pétioles plats qui prennent le vent et qui font bouger ses feuilles. Donc oui, ça mêle de l'imaginaire et de la réalité. D'ailleurs, ces contes, on les appelle les contes étiologiques. C'est des contes qui ont été créés pour expliquer ce qu'il y avait dans la nature. Quand on n'avait pas les explications concrètes, scientifiques, on inventait des choses, des histoires pour expliquer pourquoi ça se passait comme ça.
Vous parliez de la transmission orale de ces contes. Ceux que vous connaissez, vous les avez certainement entendus et découverts auprès de personnes, des personnes qui sont sur le territoire ou alors d'ailleurs aussi.
D'ailleurs plutôt, ouais. Et j'ai quelques contes qui m'ont été transmis oralement. Et je dirais que pour moi, c'est les plus précieux. Parce que comme je disais, l'essence du conte, c'est la transmission orale. Et quand on m'en a transmis, soit je l'ai entendu et ça m'a plu. Et je l'ai conté par la suite. Soit on m'en a fait... C'est vraiment un cadeau, quoi. C'est quelqu'un qui me dit « tiens, j'ai cette histoire-là, hop, je te la raconte ». Et j'adore parce que finalement, chaque fois que je le compte, je peux avoir une petite pensée pour cette personne-là. Et je suis content que le conte y vive. Et moi-même, je suis content des fois de transmettre un conte et de savoir que ça a plu et que la personne la raconte ensuite. J'aime bien.
Sur le Vercors ou sur le Diois, peut-être aussi, est-ce qu'il existe des contes?
Oui. Oui, il y en a plein. Il y a pas mal de recueils de contes sur le Vercors.
Et justement, cette transmission, leur écoute, s'opère comment à l'heure actuelle? Je fais abstraction de notre période Covid, mais en général, est-ce qu'il y a des lieux de rendez-vous qui s'opèrent dans des villages, même en hiver par exemple, pour justement écouter ces contes?
Oui, bien sûr. Les contes, Ça revient. Ça, en fait, les contes, on les a perdus à un moment donné, et puis ça revient. Moi, je dirais que c'est même un peu à la mode en ce moment, les contes. On en entend de plus en plus. Et il y a plein de formules possibles. Les conteurs du coin qui font petits spectacles dans un bar, dans un petit lieu, dans un village. Donc, il y a ces petits événements très locaux. Et puis ensuite, il y a beaucoup de festivals de contes, en fait. Et là, dans la Drôme, moi, j'en connais un à Bourdeaux, qui est au mois d'août. Je ne sais plus le nom. Mais,
c'est les nouveaux contes de Bourdeaux.
Ouais. Donc, ce festival, il est même sur plusieurs... une dizaine de jours, je crois. Et voilà, beaucoup de manifestations, beaucoup de conteurs, des randonnées contées, justement. Après, il y a un festival qui s'appelle Les Arts du Récit. Ça, c'est à Grenoble. Et donc là, voilà, on peut rencontrer plein de conteurs. Donc là, c'est des pointures, hein, c'est des grands conteurs. Et donc, on peut avoir des gens qui viennent du Vercors, mais qui viennent de partout ailleurs aussi. Hein.
Ce sont des moments où vous vous rendez donc pour découvrir de nouveaux contes ou d'en prélever, par exemple.
Oui, bien sûr. En prélever, alors j'ai... Non, dans des spectacles, j'ai jamais...
Oui, parce qu'il y a le conte, celui qui n'a pas vraiment d'auteur, hein, en quelque sorte. C'est le conte traditionnel qui a toujours existé et qui est libre de droit, je voudrais dire. Mais est-ce qu'il y a des contes nouveaux, justement, qui sont sous des réserves d'utilisation, par exemple ?
Je connais pas bien la législation là-dessus, mais en tout cas... Avec l'expérience que j'ai dans le conte maintenant, qui n'est pas énorme, hein, mais en fait, je me rends compte que même les grands conteurs, ils comptent des histoires très classiques, en fait, et qu'ils ont mis finalement à leur sauce, quoi. Et donc ça, c'est ouvert, c'est libre. Et justement, c'est le principe du conte. Hein. C'est quelque chose de libre. Alors après, il y a sans doute des contes, enfin, il y a des conteurs qui écrivent leurs histoires. Dans ce cas-là, peut-être, ça peut être différent. Mais si on est vraiment dans la tradition orale, eh ben justement, c'est la transmission qui prime. Le fait que l'histoire voyage.
La montagne, donc, c'est votre univers, Arnaud Périquet. Comment l'avez-vous vu évoluer depuis une décennie que vous pratiquez la montagne et la randonnée ?
Comment je l'ai vu évoluer ?
Je ne parle pas géologiquement, hein, mais au niveau de ce qu'on y trouve, est-ce que il y a des remarques que vous avez observées sur la nature elle-même, par exemple, est-ce qu'elle a changé d'aspect depuis quelques années ?
Moi, à mon échelle, je ne le constate pas vraiment. Par contre, par exemple, au niveau de la neige, hein, moi, j'arrive pas à comparer parce qu'on peut avoir des hivers plus ou moins enneigés. En revanche, dans ce que disent les anciens, dans ce que j'entends, on peut très bien me dire « Avant, la neige, j'avais ça devant la maison, ça n'arrive plus maintenant. » Donc oui, ça, je peux le constater dans ce qu'on me raconte.
Et la nature en elle-même, est-ce qu'elle a réussi toujours à se préserver, peut-être avec un manque d'eau quand même, évident ?
La nature, de toute façon, elle s'adapte. Hein. Donc, si on a un manque d'eau, on va avoir les essences d'arbres qui vont changer. C'est ce qui se passe, en fait, à l'heure actuelle. Hein. Sur le Vercors, par exemple, les sapins, ils trinquent un peu, hein, par endroits de la sécheresse. Donc, ils sont remplacés par d'autres essences d'arbres. Et des espèces méditerranéennes qui remontent. Dans le Diwa, là, on a de plus en plus d'espèces d'arbres et de plantes méditerranéennes. Ouais. Qu'on a une évolution de la nature qui s'adapte à ce changement. Ouais.
Dans vos contes, quelle est la place de l'animal ? Est-ce que vous en rencontrez lors de ces randonnées ?
C'est plus compliqué de rencontrer les animaux, mais ça se peut. Ça se peut, et puis c'est aussi les traces d'animaux, parce que souvent en rando, nous, on s'appuie beaucoup sur les traces. Un peu de boue, là, on va regarder dans la boue... les empreintes de quel animal qui est passé par là, une plume d'oiseau qui traîne, qui volait par ici. On s'appuie plus là-dessus. Après, on en croise, hein, sur le Vercors, on a beaucoup de bouquetins, beaucoup de chamois, il faut aller dans certains endroits, dans les pierriers, pour aller les chercher. Les vautours aussi, qui sont très présents. Si on ne voit pas de vautours dans une journée dans le Vercors, c'est quand même assez rares.
On les voit souvent passer au-dessus de Die aussi. La montagne, c'est une formation que vous avez eue pour la pratiquer. C'est une formation qui se déroule comment ?
Eh ben notre diplôme, le diplôme d'accompagnateur en montagne, ça se déroule sur 2 ou 3 ans à peu près. Il y a un test d'entrée qui est assez sélectif, avec une marche, on a un sac à dos, 10 kilos sur le dos, un chronomètre, des balises à aller chercher, à être très précis dans la lecture de cartes. Puis ensuite, on a un entretien. Donc voilà, ça c'est la partie très sélective de l'examen. Puis ensuite, on rentre dans le cursus. Et puis là, c'est une formation qui est modulaire. Donc c'est bien, ça permet aussi, si on a un travail à côté, de pouvoir continuer. Et c'est des modules de 1 semaine ou 2 semaines étalés sur 2 ou 3 ans, quoi, avec un examen final où on est évalué, on encadre un groupe d'enfants ou d'adultes et on est évalué sur nos capacités d'encadrement et un mémoire à rendre à la fin.
D'ailleurs, quand vous êtes accompagnateur, vous êtes aussi là pour observer la nature. Et est-ce que vous devez en référer, par exemple, sur certaines problématiques que vous avez vues, par exemple ? Est-ce que ce sont des exemples auxquels vous vous référez auprès d'organismes pour les informer ?
Bah, bien sûr. Ça, tout est possible parce qu'on est. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des accompagnateurs qui sont ornithologues, du coup, ils sont affiliés à la LPO et dans ce cas-là, bah ouais, ils référencent, ils font des comptages, comptage d'oiseaux, comptage de chamois, comptage de bouquetins. Donc, il y a plein de moyens de travailler avec d'autres professionnels ou des associations. Et c'est bien. Au plus, il y a de passerelles entre tout ça et au mieux c'est. Hein. Ça peut être avec les gardes du parc aussi.
Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt justement sur cette optique de randonnée informative ou d'observation par exemple ?
Oui. Bah, pour moi, il y a un regain d'intérêt pour le milieu naturel. Ouais. C'est clair. Et surtout, moi, je pense à un besoin. Quoi. Un besoin. En plus, dans la période qu'on a traversée les gens ont besoin d'aller dehors. Quoi. Ouais, et puis si en plus on a des informations, des communications, des échanges à faire sur ce qu'on voit autour de nous, oui.
Ces activités qui sont pratiquées grâce à des canons à neige, est-ce que ça c'est des choses qui sont aberrantes à vos yeux, qui se pratiquent justement sur le Vercors ?
Ben, les canons à neige, moi j'ai baigné dedans. En fait, à un moment donné, j'étais très ski alpin il y a 15 ans en arrière, quoi. Et maintenant, là où j'en suis actuellement, je trouve que c'est une aberration, c'est sûr. Ouais, ça n'a pas de sens de fabriquer de la neige, de gaspiller toute cette énergie pour simplement glisser sur des planches. Ça a plus trop de sens pour moi, en tout cas. Moi je pense qu'il faut cet espace montagnard, c'est un grand espace de liberté et ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter, mais en tout cas s'orienter vers des pratiques plus douces de la montagne, pour moi ça a vraiment du sens, ouais. Et ça peut être par le ski de randonnée avec les pots de phoque, ça peut être la raquette que nous on encadre, donc les accompagnateurs en montagne, on fait des balades en raquette. Et d'ailleurs souvent les gens sont surpris. Cet hiver, vous le savez, il n'y a pas eu de remontée mécanique. Et en fait, il y a eu beaucoup plus de travail en randonnée raquette et randonnée à ski. Et les gens, ils ont énormément apprécié, quoi. Ouais. Et sur le Vercors, on a eu des personnes qui sont venues à Vassieux. On a fait des séjours avec plein d'activités différentes, du ski de randonnée nordique, de la balade en raquette, du biathlon. Et les gens ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas. C'était des gens qui étaient habitués à aller en station de ski et à faire uniquement du ski alpin. Donc ça a été des belles découvertes, des belles surprises.
Les refuges sont aussi indispensables pour cette activité de randonnée, parce que vous opérez sur plusieurs journées consécutives et donc d'être logé sur le site.
Oui, le refuge est important. Après, nous, on s'en sert en hiver. Là, c'est quasiment indispensable, sauf si on a une poulka sur le Vercors et qu'on a des équipements costauds pour l'hiver. En revanche, l'été, on n'est pas obligé d'avoir la cabane ou le refuge. En fait, nous, on fait pas mal de balades avec les ânes, avec Vercors Escapade. Donc, on est en itinérance et on est complètement autonome. On a tout ce qu'il faut. On a les tentes, on a de quoi cuisiner, on a la nourriture. Donc notre seule obligation, c'est de trouver la source. Et ça, c'est important. L'eau sur le Vercors, c'est... il n'y en a pas de partout. Donc voilà, ça, c'est vraiment le point important. Ouais.
Comment ça se passe, justement, ces repas ?
Ah bah les repas, ça se passe bien. Hein. On se trouve toujours des bonnes salles à manger, hein, là-haut. Une belle vue, un bel arbre, ouais, un bel endroit. Et après, bah, du coup, ouais, dans les contes, quand je parle d'une fleur, moi, j'aime bien, des fois, on va jusqu'au bout. Ça veut dire que là, il y a l'histoire, l'imaginaire. Après, ce qu'on en fait, comment on la mange, comment on se soigne avec. Et puis, bah, on peut aller jusqu'à la dégustation. Et notamment, moi j'aime bien, j'ai une histoire sur la grande gentiane, la gentiane jaune, celle avec laquelle on fait la suze, par exemple. Elle a des racines immenses qui poussent jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et ces racines, eh ben, elles sont hyper intéressantes. En fait, c'est un tonique général de l'organisme, c'est digestif. Et eh ben, quand je finis l'histoire, on parle de la gentiane, et puis après, ben, on déguste. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être la suze, mais je fabrique aussi du sirop de gentiane. Donc comme ça, même les enfants, ils peuvent y goûter. Et c'est assez rigolo parce que la gentiane, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est très, très amer. Donc il faut apprécier la saveur amère. Dans notre société, on n'aime pas trop. Mais curieusement, chez les enfants, j'ai 30% des enfants qui recrachent directement quand je leur fais goûter le sirop. Et puis, il y en a qui adorent, qui en redemandent. Et donc, voilà, ça, c'est sympa parce que c'est une expérience. On va jusqu'au bout. On a goûté la plante aussi.
Au sein de Vercors Escapade, il existe une multitude d'activités et d'animateurs. Est-ce que entre vous, là, vous parliez justement des ânes, vous arrivez à concilier ou à conjuguer divers ateliers pour proposer un module beaucoup plus complet, par exemple, pour des randonneurs ?
Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit, selon la taille du groupe, qu'on soit deux guides pour un groupe. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que nous, les guides, on a tous une sensibilité, une approche différente. Et si on est deux, ben, y a deux fois plus d'apports et des visions différentes. Donc oui, ça peut arriver. Après, ce qu'on fait aussi parfois, c'est à l'intersaison, avant de démarrer, eh ben, on se fait des échanges entre nous. Tiens, toi, tu es ornithologue, tu connais super bien, tu as envie de transmettre, et ben hop, on fait une petite formation et on s'apporte un peu mutuellement nos connaissances, et ça, c'est hyper intéressant. Ouais.
Les montagnes, il y en a une multitude. Ici, ce sont les Alpes. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sites montagneux ?
Non, pas beaucoup. Moi, je suis essentiellement dans les Alpes. Après, je suis accompagnateur en montagne, mais ça m'arrive d'être en Méditerranée. En fait, je vais souvent encadrer des randonnées dans le massif des Maures. C'est un tout petit massif vers Toulon, hier. Voilà, là-bas, il y a des îles, les îles du Levant, Port-Cros, Porquerolles. Et bah, ça m'arrive de faire de la randonnée là-bas, à l'intersaison, en printemps, à l'automne. C'est un moment très agréable là-bas pour randonner.
Les propositions que vous faites en randonnée, elles débutent en général donc en mai, juin. Les prochaines prévues, si tout va bien, on pourrait envisager à partir de quelle date ?
À partir du mois de juin, ouais. On a des dates qui sont déjà actives pour le mois de juin. Ouais. Ça va démarrer et puis après tout l'été. Là, les séjours, ça y est, hein, ouais, je pense que c'est ouvert pour les réservations et tout. Ouais, à partir du mois de juin.
Donc, pour les connaître, il faut se rendre sur le site de Vercors Escapade et puis peut-être déterminer un peu plus quelle animation précisément.
Après, tout est en fait sur n'importe quel rando. Moi, c'est vrai que au niveau des comptes, ben, moi j'interviens dans le séjour avec les ânes. Dans tout type de séjour, il peut y avoir des comptes et.
Vous auriez pu faire un autre métier que celui d'accompagnateur ?
Oui. Oui, j'aurais pu faire plein d'autres métiers. Moi, ce que j'aime dans le métier d'accompagnateur, c'est la diversité. En fait, on a des groupes complètement différents. On peut avoir des enfants, on fait de l'animation nature, on peut avoir des adultes, on peut travailler avec des ânes. Moi, je suis moniteur VTT aussi, donc des fois, je suis sur un vélo. Et j'aime bien la diversité et j'ai fait plein d'autres métiers à côté. En fait, souvent, nous, les professions de montagne, on est pluriactifs. En fait, on fait accompagnateur et puis dans la période creuse, eh ben, on va faire autre chose. Donc ça peut être serveur, ça peut être plein de petits boulots. Et moi, ça a toujours été mon cas et ouais, je m'adapte assez facilement.
Peut-être pour finir l'émission, un dernier conte, celui d'un fin de parcours, par exemple.
Ouais.
Et puis, avant de se quitter, donc, je vous souhaite une bonne soirée.
Eh ben merci, de même, et merci pour ce petit temps
d'interview. Et puis, nous vous écoutons, Arnaud Périquet, pour clore cette émission, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, de même. On va aller à l'époque où les jours deviennent de plus en plus courts. À l'époque où les oiseaux se préparent à un grand voyage, vers les pays plus chauds. Et là, on avait le merle dans le ciel, petit oiseau noir. Il ne regardait pas devant lui. Tout à coup, il est rentré dans une cigogne. Alors, le merle, ça l'a complètement assommé. La cigogne, ça a à peine dévié sa trajectoire. Et le merle, il est tombé, pouf, il est arrivé par terre. Puis là, il a essayé de bouger son aile. Et son aile lui faisait drôlement mal. Ses copains oiseaux, ils sont venus le voir, ils sont entourés, puis ils lui ont dit mais merle, tu t'es cassé ton aile. Tu vas pas pouvoir faire le grand voyage avec nous vers des pays plus chauds. Tu vas devoir rester ici, fabriquer un nid à l'abri du vent du nord, et tu vas passer l'hiver ici. Le merle, il se rend bien compte qu'il pourra pas voler sur des milliers de kilomètres. Alors il commence à chercher un endroit pour faire un nid. Il avance un petit peu, il marche, il met un petit coup d'aile de temps en temps, et puis là, il s'approche d'un arbre. C'est un hêtre, un grand hêtre. Il demande « Eh, le hêtre, est-ce que je peux construire un nid dans tes branches ?» Le hêtre lui dit « Non, va-t'en, dégage, tu vas picorer mon écorce, je te veux pas dans mes branches, va-t'en. » Bon, alors le merle, il s'en va, il va chercher un autre arbre, il s'approche d'un merisier. Merisier, c'est le cerisier sauvage. Il demande au merisier « Merisier, est-ce que je peux construire un nid dans tes branches ?» Le merisier lui dit « Non, va-t'en, dégage, tu vas manger mes fruits au printemps, je te veux pas dans mes branches. » Bon, alors le merle, il commence à être un peu dépité. Il continue, il avance, il cherche. Puis là, tout à coup, il voit un bosquet avec trois arbres. Il y a un pin, un sapin et un genévrier. Alors il demande aux trois arbres « Les arbres, est-ce que je peux construire un nid dans vos branches ?» Et là, le pin lui dit « Mais oui, dans mes branches, tu as toute la place que tu veux pour fabriquer un nid. » Le sapin lui dit « Et moi, mes grandes branches, elles vont t'abriter du vent du nord. » Et le genévrier lui dit « Et moi, grâce à mes fruits, tu n'auras jamais faim cet hiver. » Alors le merle, tout de suite, il va chercher tout ce qu'il trouve de plus confortable. Des petits bouts de plumes, des petits bouts de poils, des petits bouts de mousse. Et il fabrique son nid dans les branches du pin. Et là, à peine il a terminé son nid, que le vent du nord commence à se lever. Oh ! Le vent du nord souffle. Il apporte le froid, il apporte la glace. Et le vent du nord, il aperçoit le hêtre. Alors il souffle fort sur le hêtre. Et le hêtre, il a toutes ses feuilles qui s'envolent les unes après les autres. Et le vent du nord, il aperçoit le merisier. Alors il souffle sur le merisier. Et le merisier, pareil, il a toutes ses feuilles qui s'envolent. Le merisier est complètement déshabillé. Puis tout à coup, le vent du nord, il aperçoit du coin de l'œil les trois arbres. Le pin, le sapin, le genévrier. Les trois arbres où le merle a fabriqué son nid. Alors il prend une grande inspiration. Il n'a pas le temps de souffler. Il y a une tête qui sort d'un nuage, mais alors une tête, vous n'en avez jamais vu des comme ça. Une tête énorme, blanche, glacée, de la glace de partout. C'est le bonhomme hiver. Le bonhomme hiver, c'est lui qui commande en hiver. Le bonhomme hiver, il a dit « Non, tu ne souffleras pas sur ces trois arbres, car ils ont sauvé le merle, alors ils ont le droit de garder leurs feuilles tout l'hiver. » Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais depuis cette époque, il y a certains arbres qui perdent leurs feuilles, mais il y en a d'autres qui restent verts tout l'hiver. Mais aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre jardin, le merle, il a pris l'habitude, il ne fait plus le grand voyage avec les autres oiseaux. Il construit un nid bien à l'abri du vent du nord et il passe l'hiver avec nous.
Interview. Okay, the bird.